Avocat, voici les informations de la presse canadienne. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, accuse la députée péquiste Diane Lamarre d'avoir cautionné un stratagème des pharmaciens du temps où elle était présidente de leur ordre professionnel. Cela remonte à 2010, alors qu'un plafonnement des frais a été imposé par le gouvernement aux pharmaciens. Ces derniers ont alors surfacturé les assureurs privés qui ont ensuite refilé la facture à leurs clients, selon les dires du ministre de la Santé. La CAQ soutient que le Québec n'a pas la capacité d'intégrer 60 000 immigrants par année, comme le veut la nouvelle politique du gouvernement Couillard. Le chef caquiste François Legault exige qu'on impose des cours de français à tous les nouveaux arrivants. En riposte, Philippe Couillard et le leader parlementaire libéral Jean-Marc Fournier ont lancé des accusations lourdes de sens, malgré les protestations du leader caquiste François Bonnardel. Voici cet échange.
Je crains fort, M. le Président, que la deuxième opposition souffle encore une fois, comme ils l'ont déjà fait sur les braises de l'intolérance.
Là, le premier ministre, à l'article 35, nous prête des intentions. Jamais, jamais, nous n'avons dit que mon chef a dit que nous étions contre l'immigration.
Le chef de la deuxième opposition parlait de cours et on sait qu'il a aussi l'idée d'avoir des tests de déportation.
À Ottawa, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, n'est pas prêt à vendre la mèche tout de suite, mais il assure qu'il y aura des annonces importantes pendant la visite de Justin Trudeau à Washington cette semaine. Monsieur Dion souligne la présence à cette visite de sa collègue de l'Environnement et de son collègue des Pêches, sans donner plus de précisions. Et puis, le ministre Dion espère amener quelque chose de plus abstrait de ce voyage.
Un nouvel élan dans nos relations avec les États-Unis. Il faut à tout prix faire des avancées par rapport au marché américain. Surtout au moment où notre dollar est avantageux par rapport au dollar américain.
Ce nouvel élan, est-ce qu'il serait freiné si c'est Donald Trump qui est élu président américain?
On va travailler avec le président que les Canadiens, que les Américains se choisiront.
Le producteur de musique Sir George Martin, qui a travaillé avec plusieurs célébrités comme les Beatles et Céline Dion, est décédé hier soir à l'âge de 90 ans. Tout au long de sa carrière, qui s'est étalée sur 7 décennies, George Martin a été une source d'inspiration pour une foule d'artistes. Il était surnommé le 5e Beatle. De son vivant, John Lennon avait rapidement reconnu le génie musical de George Martin, qui était aussi ouvert d'apprendre d'un groupe de jeunes.
We did a lot of learning together. He had a very great musical knowledge and background. So he could translate for us and suggest a lot of things.
Au hockey, l'ex-défenseur du Canadien Jared Tinordi est suspendu pour 20 matchs après avoir enfreint la politique antidopage conjointe de la LNH et de l'Association des joueurs. Tinordi a été acquis par les Coyotes de l'Arizona le 15 janvier dernier. Et justement, le Canadien de Montréal disputera son prochain match contre les Sabres de Buffalo demain à Montréal. C'était les informations de la presse canadienne.
Bonjour, ici le commandant Robert Piché. Vous êtes à l'antenne de Radio Mieux-Être en M1570. Bon vol.
Radio Mieux-Être vous présente « Et si on en parlait » avec Stéphane Cordier.
Chers auditeurs, bonjour, ici Stéphane Cordier sur Radio Mieux-Être pour votre émission « Et si on en parlait ». Aujourd'hui, notre invité Yves Beauchamp. Bonjour Yves.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Yves. Donc Yves, toi tu es une légende dans le domaine sportif. Tu es triathlète ultra-distance, donc c'est-à-dire pour ceux qui connaissent, c'est l'Ironman x2, x3, x5, jusqu'à x10. Et bon, pour vous donner une petite idée, chers auditeurs, par exemple l'Ironman x10, c'est 38 km de natation, 1800 km de vélo, et 422 km à pied, tout ça dans un maximum de 2 semaines. Et ça, tu l'as fait 2 fois, Yves.
C'est bien. Ouais, ça, je l'ai fait 2 fois, mais la légende, ça, j'aime un peu moins, mais effectivement, je suis un de ceux parmi les triathlètes ultra-distance sur la planète qui a complété le plus de double Ironman, triple Ironman, et comme tu viens de le mentionner, de décathlon.
Mais tu as aussi fait plusieurs fois l'ultra-marathon, que c'est plus de 50 kilomètres.
Ouais, j'ai fait des courses d'ultra-marathon qui sont, comme je te l'ai mentionné, au-delà de 50 km, mais en Europe, c'est très populaire faire des courses horaires, à savoir 6 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures, 6 jours et même 10 jours. Alors, j'ai pris part à ce genre d'épreuve aussi.
Tu m'as aussi dit tout à l'heure que pendant 7 mois, chaque jour, tu as couru 42 km.
Ouais, ça, c'est en 2014.
Chaque jour.
Ouais, c'était un petit projet que je m'étais donné pour moi-même, informel, sans pression, de courir 42,2 km à tous les jours. Mais le véritable tour de force, Stéphane, ce n'était pas de cumuler le 42,2, c'était de pouvoir vaquer à mes occupations quotidiennes, de pouvoir continuer à travailler, de ne serait-ce que d'aller gazer ta voiture, faire l'épicerie. Et c'était de conjuguer le 42,2 qui était disposé comme je le voulais parce que c'était personnel. Alors, je pouvais faire 10 km le matin, je pouvais en courir 20 l'après-midi et terminer mon 12,2 le soir.
Tout en gagnant ta vie.
Tout en gagnant ma vie. Alors, c'était pour montrer également à la société que les gens qui se trouvent toutes sortes d'arguments, surtout dans le temps, parce que la plupart des gens disent qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir faire de l'activité physique, mais c'était pouvoir un peu leur montrer ma carte de visite. Regardez, je suis capable de mener ma vie au quotidien et de pouvoir courir 42,2 km à tous les jours. Et il y a un certain dimanche du mois d'avril, ça c'est vraiment une grosse carte de visite, puis il y a aucun argument qui va pouvoir venir contredire ça. Un dimanche que j'ai donné un cours de spinning le matin, parce que je suis professeur de spinning à gauche et à droite un peu partout à Laval et à Montréal. J'ai travaillé en psychiatrie le soir de 4h à minuit, et à travers tout ça, j'ai couru 56,6 km dans cette journée-là.
Grand sportif.
Devant l'Éternel.
Alors là, tu es aujourd'hui ici avec nous parce que une de tes missions de vie, c'est que tu as décidé de transmettre aux gens tout ce que le sport t'a apporté, justement. Hein?
Ouais.
Leur montrer comment ils peuvent dépasser leurs limites, ce qu'ils croient être leurs limites, et puis les sensibiliser à l'importance du sport, à la fois pour la santé physique et la santé psychologique. Mais tu as 3 records Guinness également.
Ouais, j'ai 3 records Guinness qui malheureusement n'ont pas été enregistrés pour des points et des virgules, là, mais ça, je vais dire comme un copain français me dit souvent, on s'en fout. L'important, c'est de les avoir réalisés et tu les as en 2005.
Oui, en vélo stationnaire en 2005, tu as fait du vélo pendant 77 heures.
22 minutes.
22 minutes, et ça avec une vitesse moyenne de 24 km/h.
Mm-hmm.
En 2008, 679 km en 48 heures partagées entre 12 coureurs.
C'est bien ça.
Et puis en 2010, un autre record, 12 heures de course à pied, donc 161 km partagés avec toi et un autre coureur.
Avec un copain, un ami à moi, un Français, Didier.
Et en 2012, tu as fini deuxième à la Coupe du Monde au triathlon ultra-distance.
C'est bien
dont
ça,
dont on
ouais.
parlait tout à l'heure.
Mm-hmm.
C'est-à-dire x2, x3, x5 ou x10, l'Ironman.
Exactement, c'est au total des points. C'est comme dans plusieurs sports. À chaque compétition que tu fais, tu as des points qui te sont attribués et au terme de la saison, eh bien, les athlètes se voient afficher une quantité de points. Alors, j'ai terminé deuxième au total des points.
Alors, Yves, qui es-tu, toi? Et qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir t'investir à ce point-là dans le sport?
Je suis un être foncièrement passionné. Je suis très passionné dans tout ce que je fais, surtout dans le sport. Et le sport m'a toujours amené que du positif dans ma vie. Vous savez, aujourd'hui, 2016, on peut reculer dans le temps aussi. Quel que soit le problème qu'on est confronté dans la vie, le sport nous permet de garder notre équilibre mental et physique. Quand j'ai fait mon premier record Guinness en 2005, y avait une raison bien particulière. C'est que je suis allé en 2002 faire le décathlon au Mexique. Et je ne me suis pas rendu jusqu'au bout. Le décathlon, c'est 38 km de nage. On enchaîne avec 1800 km de vélo et on termine avec 422 km de course à pied. Au terme des 14 jours, soit 336 heures, je n'avais fait que 285 km sur la course à pied. Alors, quand je suis revenu au Québec, j'ai eu un sentiment d'échec. Et j'ai eu une période de ma vie où ça a été très difficile. Et en 2004, je me suis dit, non, Yves, il faut que tu te reprennes. Alors, je me suis remis à m'entraîner, je me suis remis à visualiser et surtout à me concentrer sur les vraies affaires pour le sport, et je suis allé faire... Je m'étais mis en tête de faire un record de vélo stationnaire. Alors, je communique avec Guinness, je leur envoie un courriel, je leur demande, y a-t-il un record qui existe pour le vélo stationnaire? Pas de réponse. Dans ma tête, je me dis, bon, je vais en faire un, il n'en existe pas. Mm-hmm. Je vais faire 60 heures. 60 heures, je pense que c'est appréciable. Alors, une semaine avant que je fasse le record, ça c'est à la mi-mars en 2005, si je me rappelle bien, c'est 19, 20, 21 mars, je reçois un courriel de Guinness qui me dit, nous avons bien reçu votre demande, Monsieur Beauchamp. Effectivement, il existe un record, il appelait ça le static cycling, Il existe un record de vélo stationnaire. Il est à 77 heures et 15 minutes. Ce sont deux Hollandais qui l'ont fait l'an passé. Alors là, je fais « wow, c'est pas 60 heures ». Je communique avec deux amis français. Je leur dis, écoutez, les gars, je leur envoie un courriel. Je voulais faire 60 heures, mais là, Guinness me répond que le record est à 77,15. Est-ce que vous pensez que je suis capable de le faire? J'avais un petit doute. Les deux me répondent, oui, Yves, t'es capable de le faire. Si t'es capable de faire 60 heures, t'es capable de faire 77 heures. Alors, j'ai fait le record de 77 heures pour me remettre un peu dans le bain de ce que c'est que de bien s'entraîner, de bien manger, d'avoir des pensées positives et de focaliser sur le bien-être de la personne, autant physique que mentale. C'était pour un peu me remettre sur les rails parce que j'avais eu un échec au décathlon au Mexique. Et on sait que les athlètes, on est très émotifs, alors par un échec, on peut être perturbé. Par la suite, pour continuer sur ma lancée, ben j'ai décidé d'aller faire les championnats européens double Ironman à Moosburg en Autriche. Et j'étais seul. Et quand on fait ce genre d'épreuve-là, ça te prend de l'assistance. Que ce soit un double Ironman, un triple Ironman, un quintuple ou 10 fois, ça prend 2, 3, 4, 5 personnes avec toi pour t'aider à la gestion de la nourriture, des fluides, t'aider à te changer, à te vêtir, ne serait-ce que huiler la chaîne de vélo, parce que pédaler pendant 1800 kilomètres, la chaîne, elle s'use, faut huiler. Alors, il y a plein de petits détails techniques à respecter. Mais moi, je suis allé faire les championnats européens double Ironman seul, sans assistance. Alors, je suis arrivé là-bas, j'ai fait la compétition, j'ai fait une natation comme d'habitude, pourrie, je nage comme une roche. Ça m'a pris plus de 4 heures, j'ai fait de l'hypothermie parce qu'il faisait très, très froid. Par la suite, sur le vélo, ça m'a pris encore une fois un temps énorme, 15 heures et quelques. Durant la nuit, le mercure était tombé à 1 ou 2 degrés, j'étais seul pour faire...
15 heures pour faire 360 kilomètres.
360, j'étais seul avec moi-même, personne ne m'aidait. J'ai gelé des doigts, j'avais le bout des doigts 6 mois après, encore gelé. J'avais les terminaisons nerveuses qui étaient off 6 mois après, tellement que j'avais froid aux mains. Et sur la course à pied, encore une fois, j'ai fait de l'hypothermie aussi. Il a fait très, très... sur le début de la course à pied, il faisait très froid, mais en après-midi, il a fait très, très, très chaud. Et j'ai terminé au bout de, je me souviens plus, 31 heures, je pense. J'ai terminé 14e sur une quarantaine. Et une fois que j'ai terminé, j'ai tombé dans les pommes, je me suis ramassé, j'ai tombé dans les pommes, j'ai eu un blackout total et je me suis retrouvé à l'hôpital de Klagenfurt dans le sud de l'Autriche. J'étais couché sur le dos, j'étais perfusionné les deux bras et il y avait 8 médecins autrichiens autour de moi qui se demandaient comment ça se fait que j'étais encore en vie parce que j'avais eu une baisse drastique de potassium et le potassium notamment, c'est ce qui aide à régulariser les battements cardiaques. Alors, je me suis comme... Je suis allé vraiment jusqu'au bout. Je me suis battu pour la 14e place sur la course à pied avec un Italien que j'ai terminé devant en me battant comme je ne me suis jamais battu. Tout cela m'a amené à l'hôpital, mais aujourd'hui, je suis là pour pouvoir en parler.
Tu as été inquiet pour ta vie?
Pardon?
As-tu été inquiet pour ta vie à ce moment-là?
Non.
Comment ça se passait?
Non, parce que les médecins se demandaient comment mon corps pouvait rejeter autant de toxines par les muscles. Mais non, j'étais pas inquiet parce que je pense que la mécanique humaine, la machine humaine est capable d'en prendre beaucoup. Puis ça a été un peu l'effet que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment jusqu'au bout de moi-même. Mais j'étais seul, alors je me suis mal alimenté, j'ai pas bu assez. Alors c'est la raison pour laquelle je me suis ramassé.
Pourquoi étais-tu parti seul?
Ben parce qu'il y avait personne qui pouvait venir avec moi et parce que je m'étais dit, Yves, tu t'en vas compléter le double Ironman pour exorciser ta dernière compétition pour te remettre sur les rails. Tu as eu un succès avec le record Guinness 77-22. Ben là, tu t'en vas là pour terminer mort ou vif. Dans ma tête, c'était ça. J'étais comme un guerrier qui s'en va à la guerre et qui va jusqu'au bout.
Chers auditeurs, nous allons procéder à une première pause. À tout de suite.
La loi concernant les soins de fin de vie est en vigueur au Québec. Cette loi assure aux personnes en fin de vie des soins de qualité et un accompagnement adapté à leur situation particulière. Dorénavant, les choix des Québécois quant aux soins de fin de vie seront reconnus. Prenez quelques instants pour vous informer en visitant santé.gouv.qc.ca. Parce qu'on ne sait jamais quand chacun de nous quittera. Mais on peut planifier les soins que l'on recevra. Un message du gouvernement du Québec.
Famille, consommation, alimentation, santé mentale, travail, logement.
Vous avez besoin de renseignements? Vous cherchez des ressources ou des organismes communautaires, quel que soit le domaine? Depuis 50 ans, le Centre de référence du Grand Montréal vient en aide à plus de 100 000 personnes chaque année. Son service est gratuit et confidentiel. Le centre de référence, informé pour aider. Appelez-nous au 514-527-1375 en semaine de 8h15 à 16h30. 514-527-1375.
Ici Christine Angelard, thérapeute en santé globale, diplômée d'un doctorat en médecine en France, naturopathe, homéopathe et diplômée en médecine chinoise. Je vous donne rendez-vous sur Radio Mieux-Être tous les mercredis de 10h30 à 11h pour votre rendez-vous santé.
L'émission « Votre rendez-vous santé » avec Christine Angelard vous est présentée le mercredi à 10h30 et en reprise le lundi 18h30 et vendredi 12h30 sur les ondes de Radio Mieux-Être.
Ici Marie-Josée Harel, auteure du best-seller « Dieu s'en moque ». Je vous invite à mon émission « Plus grand que soi » diffusée tous les vendredis dès 10h. Nous aborderons ensemble le thème fascinant de la spiritualité. Qu'est-ce qu'être spirituel de nos jours? Quels sont les bénéfices et les bienfaits d'une vie intérieure active?
L'émission « Plus grand que soi » avec Marie-Josée Harel vous est présentée tous les vendredis à 10h et en reprise le mardi à midi et jeudi à 17h sur les ondes de Radio Mieux-Être.
Chers auditeurs, nous voici de retour pour votre émission « Et si on en parlait ». Ici Stéphane Cordier avec notre invité Yves Beauchamp. Yves Beauchamp qui est triathlète ultra-distance, qui a fait plusieurs fois l'ultra-marathon, plusieurs records Guinness. Et également en 2012, Yves, tu as fini deuxième à la Coupe du Monde au triathlon ultra-distance. Yves, moi je voulais savoir, qu'est-ce qui, depuis ton plus jeune âge, t'a prédestiné justement à cette carrière dans le sport?
Moi je pense que pour... pratiquer les sports d'endurance, moi, je suis un être foncièrement émotif. Je suis très, très, très sensible. Et tout d'abord, ben, j'ai eu... Je sais pas si c'est une chance, mais peut-être que ça a été un drapeau qui s'est levé pour dire, Yves, ta vie est destinée à faire des sports d'endurance. À l'âge de 4 mois, comme je t'en ai parlé avant l'émission, j'ai été affligé par une maladie qui, à l'époque, ben, il y a des gens qui décédaient de cette maladie. C'était la pleurésie. Alors, à 4 mois, j'ai été atteint de pleurésie. J'étais placé sous la tente d'oxygène à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et le médecin a dit à mon père, Monsieur Beauchamp, si votre garçon passe la nuit, il y a 25% des chances de s'en sortir, de vivre. Et c'est une chance sur 4. Alors, il semblerait que j'ai saisi cette chance-là. Et je pense que, étant donné qu'à l'âge de 4 mois, j'ai été un battant pour m'en sortir, ben, dans les sports d'endurance, je vais retrouver ces sensations-là que, encore une fois, peut-être dans ma génétique, je suis un battant. Pour faire le sport que j'ai pratiqué, le triathlon ultra-distance, il faut être battant. Il faut vouloir toujours repousser ses limites. C'est comme quelqu'un qui commence à courir et qui se donne comme objectif de faire un 3 km. Par la suite, il a faim. Il s'inscrit à un 5 km. Il a encore faim, il veut voir qu'est-ce qui va plus loin. 10 km, après ça, il fait un demi-marathon. Et après ça, il va faire le marathon. En général, les gens s'arrêtent après le marathon.
Qu'est-ce qui fait que tu as envie de pousser toujours tes limites? C'est quoi ça exactement?
On dirait que c'est une quête spirituelle. C'est quelque chose que... c'est comme si quelqu'un qui aime beaucoup le gâteau au chocolat, puis tu as un gros gâteau au chocolat, puis on te dit, tu vas en prendre juste une cuillère. Ben moi, je suis pas capable. Il va falloir que je mange le gâteau, puis je suis pas tellement sucré, j'aime pas vraiment le gâteau au chocolat, mais je fais une image pour pouvoir un peu vous démontrer pourquoi je suis comme ça.
C'est comme plus fort que toi?
C'est plus fort que moi. S'il y a d'autres, je suis rendu à 51 ans aujourd'hui. D'ailleurs, merci pour le compliment tout à l'heure. S'il y a des épreuves qui vont se concrétiser dans le monde et qui ils vont m'inviter pour des choses énormes, ne serait-ce que faire 50 triathlons distance Ironman en 50 jours, ben il va falloir que je sois là. Je peux pas passer à côté parce que c'est moi, c'est ma vie, c'est ma quête spirituelle. Puis quand on fait ce genre de sport-là, on fait pas ça pour la notoriété, on fait pas ça pour avoir notre photo dans le journal, pour être interviewé à la radio. On fait ça parce que c'est personnel, parce que c'est de la satisfaction personnelle. Et comme j'en parle souvent, à l'origine, quand les gens ont commencé à faire l'Ironman, ben la plupart des gens qui voyaient des triathlètes qui faisaient des Ironman, ils se disaient, ben ils sont fous, c'est trop, c'est... Ben non, on est rendu encore plus loin. Alors dans 30-40 ans, ils vont dire, ben Yves Beauchamp, il était pas si fou que ça. Il était simplement un des premiers, il était un des pionniers à pratiquer ce sport-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en font. Si on recule 40 ans en arrière, la plupart des gens voulaient courir un marathon. Un marathon, c'est 42 km 195. Ça, c'est 40 ans en arrière. Aujourd'hui, la plupart des athlètes veulent faire un Ironman. Alors, c'est de toujours vouloir repousser davantage. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont encore plus cette drive-là d'aller plus loin. Puis moi, je fais partie de ce genre de personnes-là.
Il y a un aspect physiologique aussi sur le cerveau.
Oui.
Est-ce que c'est pas comme une dépendance, justement?
Oui, c'est
positive,
une addiction.
Positive, on s'entend.
C'est une addiction. J'ai appris l'addiction au sport puisque j'ai été interviewé par un journal en France il y a de cela un an et demi, la bigorexie. Et maintenant, je suis très, très, très heureux de dire que je souffre viscéralement de bigorexie, c'est être addict au sport. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure hors d'onde, Stéphane, c'est prouvé en laboratoire que lors de pratique d'activité physique, le cerveau sécrète des drogues. Des drogues, on va mettre ça entre guillemets, la sérotonine, la dopamine, les endorphines, c'est aussi fort que la morphine et c'est prouvé scientifiquement. Alors, ça crée du bonheur, ça crée un équilibre physique et mental et on ne peut plus s'en passer. Une fois qu'on est, comme je le dis souvent à travers mes conférences et les cours que je donne à gauche et à droite, une fois qu'on est dans ce cercle-là, de la bonne activité physique, de s'entraîner et de toujours avoir ces belles sensations-là pendant et après, ben c'est difficile d'en sortir.
Et puis, c'est pas dangereux.
C'est pas
dangereux.
Trop
de sérotonine?
Je pense pas. Je pense pas que ce soit dangereux.
C'est quoi les autres bienfaits du sport?
Ben les bienfaits, c'est que ça t'amène à rencontrer des gens qui sont souvent comme toi, des gens qui partagent un peu les mêmes passions, des gens qui partagent aussi la même vision des choses. Je pense que pratiquer le sport, ça nous permet aussi de voir plus clair dans le quotidien. Vous savez, dans la vie, dans la société en général, c'est pas toujours rose. Et je pense que ça nous permet de pouvoir poser des diagnostics plus précis sur certaines situations. Il y a beaucoup de mauvais jugements face à des situations dans la société. Puis je pense que ça nous permet d'être vraiment connectés sur les vraies affaires. Ça, c'est les bienfaits. Et ça nous permet, comme j'ai dit, de rencontrer des gens, d'échanger, d'avoir de belles conversations et de pouvoir parler de tout et de rien et tout ça en étant très ludique parce que c'est très important de pratiquer du sport. Oui, j'ai fait du sport à haut niveau, mais c'est important aussi de le faire de façon ludique, de s'amuser, de retrouver un peu la flamme de l'enfant qu'on a perdu malheureusement en vieillissant.
Ça a un impact sur le stress aussi.
Ça a un impact sur le stress. Si vous regardez la plupart des athlètes qui sont... j'ai-tu de la stressée? qui sont interviewés à la radio ou à la télévision, souvent... sont pas trop stressés, sont bien, ils ont un débit qui est régulier, ils ont un petit dynamisme dans la voix, ils ont des étincelles dans les yeux. Alors, le sport, c'est ce que ça rapporte. Et c'est important de mentionner parce que de la course à pied, du spinning, ça peut intimider certaines personnes. Il y a des gens qui sont intimidés parce qu'ils trouvent ça gros. Ah, je serais pas capable, patati patata, mais on le sait, même marcher, c'est bon pour la santé. Ne serait-ce qu'une marche à 4, 5 ou 5,5 km heure, c'est excellent pour la santé. Ça vient oxygéner l'être au complet, le cerveau, puis ça nous permet de voir plein de belles choses également.
Moi, je voudrais savoir comment tu te prépares mentalement quand tu es sur le point de relever un nouveau défi pour toi. Quand je dis te préparer mentalement, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un travail sur les pensées, sur les images qui vont traverser ton esprit, physiquement, bien entendu, j'imagine qu'il y a une préparation. Tout ça, comment tu fais pour te préparer?
Ouais, côté physique, il y a une somme d'entraînement horaire maximum qu'on peut mettre. C'est sûr que quand on est rendu à 30-35 heures par semaine d'entraînement, ça commence à être beaucoup. Côté mental, ben il faut que tu te mettes en situation. Si tu te prépares pour un double Ironman, ben là, dans mon cas, je sais que ça va être entre 27 heures et 37 heures, et 30 heures. Alors, je sais que pendant 27 heures ou 30 heures, je vois soit nager, pédaler ou courir. Alors, je vais me préparer mentalement et physiquement. Je peux courir la nuit en regardant le ciel parce que je sais que sur la course à pied, il va falloir que j'affronte la nuit sur la course à pied. Alors, tu cours, tu regardes les étoiles et tu dis, ben, je me mets en situation quand je vais être en Autriche. À ce moment-ci, je vais regarder les étoiles puis je vais courir. Pour le décatriathlon, j'étais brancardier à l'époque en 2006 à l'hôpital du Sacré-Cœur. Je travaille toujours là. Je suis en psychiatrie maintenant. Et c'est drôle, mais les gens ne le remarquaient pas. Mais moi, je le faisais pour préparer ma gestuelle, mes points d'appui en natation. Ben, je marchais dans le corridor puis je faisais ça comme ça avec mes mains. Toi, tu le vois le mouvement là. Pour ma position sur le vélo, parce que puisque 1800 km de vélo, c'est long, c'est laborieux, c'est pas facile pour le corps entier, pour le dos. Faut vraiment changer la position. Faut changer changer les pédales, faut changer la hauteur et la profondeur de la selle et du guidon. Eh bien, quand je poussais les civières comme brancardier, je me penchais sur les civières comme si j'avais une position aérodynamique pour habituer mon corps sur le vélo. Alors, il y a une préparation très méticuleuse à tout point de vue, mais je pense que l'important dans ce genre d'épreuve-là, surtout dans le sport que j'ai pratiqué, triathlon ultra-distance, c'est de vivre le moment présent, chose qu'on oublie dans le quotidien. Le moment présent, ici et maintenant, et ne rien appréhender. Parce que si on se met à appréhender, ben 38 km à bout de bras, à la nage, ça va être long. 1800 km en vélo, ça va être long. Et 422 en courant, également, ça va être long. Alors, c'est le moment présent. En natation...
C'est bon. Donc, tu pratiques beaucoup le moment présent dans l'entraînement.
Ah oui, je pratique beaucoup le moment présent, ne rien appréhender. Malheureusement, les humains ont peur de tout et de rien. Peut-être parce qu'ils appréhendent, peut-être parce qu'ils sont souvent dans l'inconnu. Quand j'étais dans la portion natation, je suis vraiment très... Je suis poche en natation, je nage très mal. Ben, s'il avait fallu que Yves pense, ben là, tu viens de compléter ton premier kilomètre, t'en restes 37, j'aurais pas terminé. Alors, c'était le moment présent. Et tu deviens dans une forme d'extase quand tu fais des sports d'endurance, parce que sur la portion de natation, à un certain moment donné, j'étais rendu à, je pense, 20-22 kilomètres, j'avais une tendinite à un bras, je nageais pratiquement juste d'un bras, les derniers kilomètres, et j'étais tellement comme dans un autre monde. Quelqu'un m'aurait dit, Yves, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu nages? Est-ce que tu es devant ton clavier d'ordinateur? Est-ce que tu prends une marche? J'aurais même pas été en mesure de répondre, mais je nageais.
Une pierre avec un bras.
Ouais.
Mais il n'y a pas de préparation. Ce que je comprends, c'est que tu n'as jamais ressenti le besoin de te préparer. Je m'y connais pas, mais j'ai déjà entendu dire que certaines personnes se préparaient en visualisant la réussite, se visualiser en train de passer la ligne d'arrivée.
Ouais.
Tu sais, beaucoup de visualisation dans des images lumineuses,
ouais.
De gaieté avec des ancrages, tu
ouais,
sais.
Avec des ancrages
physiques,
ouais,
physique,
ouais.
Psychologiques.
Des images qui peuvent être...
Des approches cognitives.
Ouais. Mais moi, c'est plus le moment présent. Yves, tu fais ta job et tu t'en vas là pour aller jusqu'au bout. Quel que soit le temps que ça va te prendre, tu vas jusqu'au bout. Mais j'ai pas de visualisation en tant que telle avant la compétition. Mais je me suis entraîné physiquement. Mentalement, je sais que je suis très fort dans les compétitions puisque j'ai réussi. Et ce que je me dis, c'est que tu vas jusqu'au bout. Tout simplement, et tu n'appréhendes rien. Tu as une crevaison sur le vélo, ben tu répares ta crevaison, puis tu repars. Tu as des ampoules en dessous des pieds, ben tu répares tes ampoules, tu changes de bas, tu graisses tes pieds, tu changes ta semelle ou tu changes de chaussure, et tu repars, et tu oublies la douleur, parce que forcément, tu as des douleurs. Parce que faire de telles distances, ben c'est sûr que ça a des impacts sur le corps.
Donc, ton moteur à toi... ça n'a jamais été la rage, en fait, si je comprends bien. Parce que certaines personnes utilisent la rage pour se dépasser.
Ben, à l'occasion, c'est drôle que tu parles de ça, Stéphane, parce que oui, la rage, souvent, elle me sort par les pores de la peau et je l'utilise dans le sport parce que je trouve que, comme j'en ai mentionné tantôt, on est face à beaucoup d'aberrations dans la vie et je me dis, ben, pourquoi ne pas avoir un exutoire pour faire face à ces aberrations-là? Puis le sport me permet justement d'avoir cet exutoire-là, de faire ouf, ça fait du bien.
Okay, donc c'est aussi quelque part un moteur pour toi?
Oui, c'est un moteur.
Parce que je t'entendais, quand je t'écoutais, ça me faisait penser que t'étais aussi dans le lâcher-prise comme moteur quelque part. Dans le mouvement qui est plus dans le moment présent. Tu sais, le plaisir de ce qui est là.
Oui, le lâcher prise. Et tu sais, Stéphane, je donne des cours de spinning le midi à gauche et à droite. Puis souvent, ça permet aux gens qui travaillent le matin et qui travaillent l'après-midi ben de pouvoir avoir un 50 minutes de plaisir et de transpirer un peu et par conséquent d'avoir du bonheur.
On va revenir là-dessus juste après la pause, Yves. À tout de suite, chers auditeurs, après cette pause.
Ici Stéphane Boucher. Si vous vous questionnez sur l'être humain et son fonctionnement, ainsi que la place qu'il occupe réellement sur la Terre et même dans l'univers, je vous invite à suivre mon émission Les chercheurs de vérité. J'y aborde avec passion et curiosité plusieurs questions existentielles vues sous l'angle de la science. Ayant étudié en sciences physiques et en sciences de la vie, j'aurai le plaisir de partager avec vous des résultats de recherches sérieuses et récentes sur l'humain et le monde qui nous entoure. C'est donc un rendez-vous sur les ondes de Radio Mieux-Être.
L'émission « Les chercheurs de vérité » avec Stéphane Boucher vous est présentée tous les mardis à 16h et en reprise le jeudi 16h et vendredi midi sur les ondes de Radio Mieux-Être.
Voici les informations. Justin Trudeau profitera de sa visite à Washington cette semaine pour annoncer son soutien à un plan qui pourrait révolutionner la façon dont les voyageurs traversent la frontière. Il semble que le premier ministre canadien a l'intention d'endosser une expérience de pré-dédouanement qui permettrait aux gens de passer aux douanes à des stations ferroviaires, d'autobus et sur les autoroutes, de la même façon qu'ils le font actuellement dans plusieurs aéroports canadiens. Les militants conservateurs ont appris les règles imposées pour la course au leadership de leur parti. Celui qui voudra succéder à Stephen Harper devra cependant avoir les poches bien garnies. Alors, les conservateurs mettent le plafond à 5 millions de dollars pour leurs dépenses. Et au hockey, l'ex-défenseur du Canadien de Montréal, Jared Tinordi, maintenant avec les Coyotes de l'Arizona, est suspendu 20 matchs après avoir enfreint la politique antidopage de la LNH. Ici Hélène Moka de la presse canadienne.
Ici Marie-Josée Longchamp. Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-Être.
Chers auditeurs, nous voici de retour pour votre émission « Et si on en parlait ». Ici Stéphane Cordier avec notre invité Yves Beauchamp, triathlète ultra-distance. Tu as fait plusieurs fois l'ultra-marathon, plusieurs records Guinness. Alors Yves, tu étais en train de nous parler un petit peu de ton moteur à toi, tu sais, dans le sport. Et je te posais la question, est-ce que la rage peut être un moteur? Et tu nous disais, oui, des fois, ça m'est arrivé également que la rage soit un de mes moteurs.
Oui. Effectivement.
Et je me disais, certains jeunes qui sont peut-être enragés de par ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie, est-ce que ça pourrait les aider
à
ne pas mal tourner?
Tout d'abord, les mamans, les papas qui sont à l'écoute, si vous avez des jeunes qui sont en crise, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, achetez-leur un bon punching bag. Si ce sont des garçons, vous installez ça dans le sous-sol, ça coûte une centaine de dollars. Et quand le jeune, vous sentez qu'il y en a trop, il y a trop de responsabilité, il y a trop d'émotions, il y a trop de rage à sortir, dites-lui qu'elle donner quelques coups de poing sur le punching bag. Je donne un exemple, mais il y en a d'autres également. Courir, c'est un exutoire. La discipline que le sport requiert, c'est excellent pour les jeunes. Et on le sait, on en a des preuves. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont sortis de la délinquance grâce au sport. Et on a des exemples dans le football professionnel, on en a dans le hockey professionnel, amateur. Alors le sport, je pense que c'est également une des seules choses dans la vie qu'on a encore un certain contrôle. On n'a pas grand contrôle sur plein de trucs dans la vie, mais dans le sport, il reste qu'on a toujours un contrôle. Si on veut courir à 25 km/h, quelqu'un qui est capable de le faire, on est capable de le faire. Si on veut courir à 8 au lieu de courir à 25, on peut le faire également. Alors c'est libre à nous de choisir qu'est-ce qu'on fait, puis de le faire au niveau de l'intensité qu'on veut.
Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux jeunes qui seraient comme sur le point de tomber dans la délinquance? Le sport, je comprends la discipline. Ça peut être de l'autodiscipline?
De l'autodiscipline, et ça va leur permettre justement d'aller chercher les sensations qu'ils pensent qu'ils pourraient éprouver avec des substances externes, des drogues. Le sport va te donner pratiquement les mêmes sensations, mais c'est sain. Alors, ça va leur permettre également d'être une meilleure personne dans la vie. Les jeunes qui pratiquent du sport, habituellement, sont plus performants au travail, vont se présenter de façon ponctuelle, soit à leur travail, soit à l'école. Ils vont être plus assidus, ils vont être plus concentrés. Je donne des conférences dans les écoles.
Plus calme aussi, j'imagine.
Ouais, plus calme. Lorsque je donne des conférences dans les écoles, ce que je fais, c'est que pendant une heure et quart, je parle de ma carrière, je parle du petit Yves qui avait des rêves à l'âge de 8 ans, qui a réalisé ses rêves grâce au sport. Et ce que je fais aussi, c'est que j'ai un petit 2 minutes à chaque 5 minutes à peu près, parce que garder l'attention de jeunes de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, c'est pas facile. Alors je leur fais faire de l'activité physique avec de la musique. Alors là, ils bougent. On fait des jumping jacks. On court sur place. Alors, pendant une minute, deux minutes, je les fais bouger. Puis, quand ils arrêtent au bout de deux minutes, sont calmes, sont essoufflés, puis sont réceptifs à mes propos. Alors, je fais ça régulièrement à travers les conférences, 4, 5, 6, 7 fois, puis j'ai réussi toujours à garder leur attention. Et d'emblée, ça leur démontre les bienfaits du sport, parce que je leur dis, vous voyez, vous êtes toutes calmes, vous êtes toutes bien réceptifs, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Pourquoi? Parce que vous venez de développer des endorphines, vous venez de développer votre corps qui va être comme une éponge, qui va tout comprendre mes propos.
Donc, tu penses que dans les écoles, il faudrait mettre plus de mouvements corporels au programme?
Ah, mon Dieu, Stéphane, si j'étais ministre des loisirs et sports, des sports et loisirs, ce serait minimum une heure d'éducation physique à tous les jours. À tous les jours. Sauf, évidemment, s'il y a des jeunes qui peuvent pas, on pourrait déroger puis leur faire faire autre chose, une passion quelconque. Mais je pense que l'activité physique, ce serait une heure à tous les jours.
En plus des récréations où ils se défoulent.
En plus des récréations où ils se défoulent, où il faut les laisser aller aussi. Il faut pas les brimer dans leur mouvement, dans ce qu'ils font.
Oui, parce que par exemple, il y a des écoles où on peut pas courir. Hein?
C'est incroyable.
Pas se blesser.
C'est incroyable. Alors non, ça c'est pour moi, là, en tout cas, si j'avais une certaine autorité de ce côté-là, je pense que je brasserais la cage.
Et c'est quoi ton point de vue là-dessus, justement? Tu dis qu'il faut qu'ils se défoulent. Entre la limite de ce qui est normal entre jeunes comme ça, de se bousculer un petit peu, et l'agressivité. On dirait que c'est pas très clair entre ce qui est normal et ce qui est tout de suite appelé de l'agressivité.
Bon, ben, je pense que là, c'est aux éducateurs de faire la part des choses et d'intervenir s'ils voient qu'il y a de l'agression. Mais deux petits garçons qui se tiraillent dans la neige pour le plaisir... Pour moi, c'est normal. Les petits gars, c'est comme ça. Puis même que je dirais pas que je vais les encourager parce que je veux pas que mes propos soient mal interprétés, mais je pense que c'est normal que deux petits gars se tiraillent. Ça fait partie du mal. Et c'est dans notre génétique. Mais vous savez, j'ai déjà entendu que maintenant, il y avait des montagnes de neige dans les cours d'école puis ils interdisaient aux enfants d'aller au sommet. Quand j'étais jeune, nous autres, on allait au sommet puis on faisait des roulades. Puis je suis encore là pour en parler aujourd'hui.
Alors, le sport, ça amène aussi de la fierté.
Oui, ça amène de la fierté. Ça amène la réalisation.
De reconnaissance.
Oui.
C'est même de soi par rapport à soi.
Oui, de soi par rapport à soi. Et également, la reconnaissance des autres. Et souvent, la reconnaissance des gens qui t'entourent et des autres, ça vient souvent des autres athlètes, de ceux qui ont pratiqué un sport aussi à différents niveaux. Ça peut être un niveau amateur ou un niveau un peu plus élevé. Ça peut être fait en dilettante comme néophyte ou ça peut être un coureur ou quelqu'un qui est confirmé dans son sport. Mais effectivement, c'est la fierté d'avoir accompli ce qu'on a accompli, mais c'est aussi la petite tape dans le dos que tu reçois. Soit à l'occasion.
Ça donne vraiment du sens à la vie.
Ouais.
Rendu à l'heure actuelle, on parle de plus en plus d'anxiété chez les jeunes enfants.
Oui.
C'est le sport qui est la clé.
Ben, moi, je pense que c'est un outil qu'on a, qui est à portée de la main, est gratuit, qui est là, mais qu'on n'utilise pas. Qu'il y a des gymnases au Québec qui ont plein de trucs de sport, des poutres, des trampolines, et qui ne sont pas utilisés. Et je trouve ça odieux. C'est odieux, c'est de la marchandise qui est pas utilisée, puis ça dort là pour rien, ça pourrait être utile pour les jeunes. Et tu sais, Stéphane, je le dis souvent, moi je suis très impliqué auprès de la jeunesse et je trouve ça important de les faire bouger, de leur montrer que faire du sport, ça apporte des bienfaits, mais faut se rappeler que si on les prend dès un jeune âge, ben si ces jeunes-là continuent à faire du sport et qu'ils sont bien dans leur tête, dans leur corps, grâce au sport, ben plus tard, ces jeunes-là, eux vont prendre soin de nous, eux vont prendre les décisions pour nous, alors ça va faire des êtres équilibrés.
Absolument. T'as fait du sport quand t'étais petit?
Oui. <Non. rire> je suis addict au sport. Oui, mon âme est empreinte de sport.
C'était quoi comme sport?
Je joue au baseball comme tous les gamins de mon âge jusqu'à junior. J'ai quand même eu la chance de pratiquer des sports à haut niveau. J'ai joué au baseball jusqu'à junior. J'ai joué au hockey jusqu'à junior. J'ai joué au baseball, au football collégial 2A pendant 2 ans. J'étais pas particulièrement bon au football, mais j'aimais beaucoup la symbiose de l'équipe dans une équipe de football. C'est une discipline vraiment, vraiment, vraiment importante à avoir quand tu joues au football collégial. Et je faisais également des épreuves d'athlétisme, de course à pied.
Ton papa a joué un rôle important aussi.
Mon père m'a toujours poussé à faire du sport. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a poussé, mais pas à outrance. Il me demandait qu'est-ce que je voulais faire. Ben moi, je disais, je joue au hockey. Parfait, il m'inscrivait au hockey. Et il se levait à 6h le matin, samedi matin, pour venir me reconduire à la patinoire. Et ça, je lui en ai toujours été reconnaissant. Et je pense que tout bon père se doit, non pas de pousser à outrance son enfant à faire du sport, mais tout simplement être là.
Absolument.
Ouais.
C'est quoi le plus grand défi que tu as rencontré, psychologiquement parlant?
J'en ai deux que j'ai rencontrés. C'est le décathlon, c'est très, très dur. Je l'ai réalisé deux fois. Le décathlon, comme je l'ai dit, c'est énorme, là. Dans mon cas, ça m'a pris la première fois 11 jours et 15 heures et la deuxième fois 11 jours et 6 heures. Également, quand j'ai fait le marathon par jour, là, sur, je voulais le faire sur 365 jours. Malheureusement, je me suis blessé au bout de 7 mois. Alors, j'ai fait à peu près 220 marathons en 220 jours. Après ça, j'ai réduit à 30 kilomètres. Ça a été un défi parce que, comme j'ai dit, ce qui a été difficile, c'est de pouvoir mener ma vie normale à travers le 42 kilomètres quotidien. Et pour ce qui est du décathlon, ben là c'est dur parce que c'est le temps, ça ne finit jamais. Les autres athlètes et moi, on se regardait des fois, on se regardait dans les yeux pis on se disait, ça a pas d'allure, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, c'est trop. Pourquoi on s'est embarqué là-dedans?
C'est les deux semaines, hein, maximum.
Ouais,
c'est ça, hein?
336 heures, deux semaines maximum.
Alors je le répète, le décathlon, c'est 38 kilomètres de natation, 1800 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à pied, et tu as deux semaines maximum pour l'accomplir.
422 de course à pied.
422, il manquait un 2.
C'est pas grave.
Ça semble tellement énorme.
Mais oui, c'est énorme, et à partir du moment que tu as accompli ce genre de truc-là, on est poussé, malheureusement, dans la société, à tout faire rapidement. À partir du moment que tu as accompli ce genre de truc-là, il faut tellement être patient, il faut tellement vivre le moment présent que... Oui. Après, quand tu t'en vas à l'épicerie pour payer ton épicerie, quand tu t'en vas à la banque, ça ne te dérange pas d'attendre.
C'est ça.
T'es patient, parce qu'il faut être patient. Et ça, on perd la patience aujourd'hui.
C'est le plaisir, tu dois ressentir
ah oui.
À travers ça. Chers auditeurs, nous allons procéder à une pause. À tout de suite.
Ici François-Étienne Paris. Vous cherchez à réduire votre consommation d'énergie? Revoyez vos habitudes de chauffage et de climatisation. Effectuez un entretien régulier de votre système de chauffage et changez régulièrement les filtres de votre climatiseur. Baissez le chauffage la nuit et pendant vos périodes d'absence. Installez des coupe-froid autour des portes et des fenêtres et assurez-vous que votre demeure soit bien isolée. Gardez la porte du vestibule bien fermée pour éviter les courants d'air froid. Portez un chandail dans la maison et baissez de quelques degrés votre thermostat. Parce que chaque petit geste est important.
Un message de la Fondation québécoise en environnement.
Ici Luc Mathieu, naturopathe. Je vous invite à l'émission Mieux vivre, mieux être, où l'on parle de trucs pour bien s'alimenter et profiter des bienfaits d'une bonne hygiène de vie, entre autres par l'exercice. Dans cette émission de 2 heures, je vous donne des conseils, je reçois des invités experts dans le domaine naturopathique. Nous répondons également à vos questions. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, en direct le lundi dès 11h, rediffusé le mercredi à 11h et le vendredi à 16h. Sur les ondes de Radio Mieux-Être 1570 et sur radiomieuxêtre.com.
Docteur en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages et communicateur bien connu, André Moreau ne laisse personne indifférent.
L'origine de toutes les maladies est dans le mental.
Découvrez ce personnage singulier et véritable libre-penseur tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h sur les ondes de Radio Musette AM 1570.
M'a-t-on compris?
Ici le docteur Luc Baudin. Je vous invite à écouter mon émission Électron Libre, qui est diffusée sur les ondes de Radio Mieux-Être. Une foule de sujets seront abordés. Suivez-moi dans mon univers de médecin, de médecine traditionnelle et de médecine holistique, de chercheur avant-gardiste et d'auteur.
L'émission Électron Libre avec le docteur Luc Baudin vous est présentée tous les mercredis à 10h, en reprise à 18h30 et les vendredis à midi, sur les ondes de Radio Mieux-Être.
Chers auditeurs, nous voici de retour pour votre émission. Ici, on en parlait ici, Stéphane Cordier, avec notre invité Yves Beauchamp. Yves, est-ce que tu as des anecdotes où le sport t'a amené du positif alors que tu étais dans une situation où manifestement une situation négative où t'aurais pas pu t'en sortir finalement, mais grâce au sport t'as réussi à t'en sortir. Est-ce que t'as de belles histoires?
Ouais, j'ai des histoires à raconter, j'en ai plusieurs, on pourrait passer la journée si tu veux Stéphane, mais je vais en raconter deux. Tiens, je suis allé faire en 2008 une compétition aux Émirats Arabes Unis. J'ai atterri à Dubaï et la compétition était à Rak Al Khaimah, qui est complètement du côté est des Émirats Arabes Unis. C'est 7 états et Rak Al Khaimah, ça veut dire pointe de l'attente, c'est tout près du golfe Persique. J'arrive à Dubaï avec, je suis seul, avec mon vélo dans une boîte, avec mon sac de hockey rempli de matériel de triathlon, mon sac à dos, et l'équipe italienne qui m'avait invité m'avait dit « Yves, on va venir te chercher ». Alors, je leur ai dit « J'arrive mardi soir à 18h ». L'équipe italienne ont mal compris mon message, ils pensaient que j'arrivais le mercredi. Alors, personne était là. J'attends 1h, 2h, 3h, 4h. Personne n'était là. Et là, ça parle arabe. Alors, ce n'est que de l'arabe. Je suis à l'aéroport de Dubaï. Je suis seul. Et là, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, ben non, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est pas normal. Alors, au bout de 4 heures, il y a un monsieur qui vient vers moi, qui s'avance, qui me demande en anglais, est-ce que vous savez où on va chercher les bagages qu'on a oubliés? Alors, moi, je lui réponds en anglais que je le sais pas, que je viens de l'Amérique. Et là, je commence à lui expliquer la situation en anglais. Et il m'a dit, est-ce que vous parlez français? Je lui réponds, oui, je parle français. Et il dit, alléluia, quelqu'un qui parle français. Ben, je dis, moi aussi, alléluia, quelqu'un qui parle français. Je suis très heureux de vous rencontrer. Alors, j'ai rencontré ce monsieur-là qui était un Algérien qui travaillait à Dubaï, qui était ingénieur. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il réparait les systèmes de réfrigération à Dubaï parce que là-bas, c'est très populaire puisqu'il fait très chaud. Alors, il mange beaucoup de crème glacée. Également, ils ont la piste de ski intérieur, ski alpin intérieur que j'ai visité. Alors, ce monsieur-là, il s'appelle Adèle. Il me dit, Yves, il dit, puisqu'il n'y a personne avec toi, je te propose, viens chez moi dans mon loft à Dubaï, je te laisse les clés, tu restes avec moi une semaine, dans une semaine, je vais aller te reconduire sur le site de la compétition, puis tu pourras faire la compétition. Alors, parmi les 20 athlètes qui étaient sur place, c'est moi qui ai fait le plus beau voyage, parce qu'il m'a tout montré dans Dubaï, il m'a montré les îles, il m'a montré la plus haute tour du monde, il m'a montré la piste de ski alpin intérieur, et partout où j'allais avec lui, lorsqu'il réparait des systèmes de réfrigération, ben souvent, le propriétaire du restaurant, ben me payait soit le repas, me payait soit une glace ou alors j'ai tout fait à Dubaï, j'ai vécu Dubaï de l'intérieur et comme j'ai dit, c'était une situation qui dès le départ était négative, qui s'est transformée en positif suite à ma rencontre de ce monsieur-là.
Du positif dans le négatif.
Exactement. Et j'essaie toujours de renverser la vapeur, renverser les situations qui, après ma barre, peuvent s'avérer négatives, mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose de positif. J'en ai une autre, si tu me permets.
Ce qui m'a marqué, c'est que tu as attendu 4 heures avant de t'inquiéter. Ça, c'est la capacité de vivre dans le moment présent.
Oui, effectivement. Effectivement.
Oui, ben, si tu as une autre histoire, oui.
Le temps, ça a été inventé par l'homme. Hein? Alors, le temps, est-ce que c'est quelque chose qui se mesure? Je suis pas sûr. La deuxième, je donne un cours de spinning, ça fait quelques années déjà, et j'arrive au gym, et il n'y a pas d'électricité. Je viens pour allumer la lumière, puis à l'époque, ben, c'était très populaire. J'avais une quarantaine de personnes qui attendaient dans le corridor, dans le couloir. Et j'arrive pour allumer la lumière, pas de lumière. J'arrive pour allumer le système de son pour la musique. Parce qu'un cours de spinning, ça se fait avec de la musique. Parce que ça crée de l'ambiance, ça crée de l'énergie parmi les participants. Pas de musique. Alors, je m'en vais à l'accueil, je vais demander, il y a quelque chose qui se passe. J'ai pas d'électricité dans la salle de spinning. Et ils me répondent, non, il y a pas d'électricité, Yves. Puis, on a un gros problème actuellement. Alors, je retourne à la salle de spinning. Là, les gens me disent tout. Ben Yves, on va laisser faire, tu sais, il y aura pas de cours ce matin. J'ai dit non, il va avoir un cours. On va faire un cours dans la noirceur, on s'en fout. Alors, les gens, je les ai aidés à s'installer. Tout le monde s'est installé sur leur vélo. Il était une quarantaine, il faisait noir. Et comme je dis souvent, les yeux s'habituent à la noirceur. L'entraînement, c'est la même chose. Quand tu habitues ton corps à s'entraîner et à aller à un certain niveau, ben c'est comme quand les yeux s'habituent à la noirceur. Tu fermes la lumière, il fait noir, 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 mais au bout de 15 minutes, tu commences à voir un peu clair.
Tu sais.
Je peux voir que t'as une barbe, tu sais. Mm-hmm. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné le cours de spinning sans musique, sans jeu de lumière, sans rien, dans le noir le plus total, et on a échangé. J'ai parlé de l'origine du triathlon, j'ai parlé de l'origine du marathon, j'ai parlé des records en ultramarathon, en ultra-triathlon, j'ai parlé de plusieurs sports, et à la fin du cours, les gens m'ont dit, waouh, oui, c'était le meilleur cours qu'on a jamais eu. Puis ça s'est fait sans rien, sans artifice.
Alors, j'imagine que t'as beaucoup voyagé aussi, grâce au sport.
Oui, j'ai été amené...
Est-ce qu'il y a une vision culturelle différente du sport dans les pays où tu as été?
Oui, il y a un grand, grand respect vis-à-vis des athlètes en Europe, surtout en Europe de l'Est, je dirais en Hongrie, en Slovénie, en Autriche, en Allemagne. Il y a un grand respect pour les athlètes qui participent au sport que j'ai fait. Tu sais, Stéphane, quand je me retrouvais dans des compétitions là-bas, on est comme des héros là-bas. Là. On arrive en Hongrie...
Europe de l'Est.
En Europe de l'Est, surtout en Hongrie. Moi, quand je suis arrivé en 2009, il y avait les championnats du monde, puis c'était gros, on était une quarantaine, et il y avait une banderole au-dessus d'une artère dans la rue principale à Boniad, et c'est une grosse banderole qui disait « Le retour des héros », c'était marqué en hongrois, et c'était marqué « Le retour des héros » du telle date à telle date, championnat du monde, double Ironman, puis c'était ma figure qui avait sa banderole. Et quand tu étais là-bas, souvent... Nul n'est prophète en son pays, c'est ce qu'on dit souvent, ben c'est effectivement le cas. C'est là-bas, tout le monde veut te toucher, tout le monde veut ton autographe, prendre une photo avec toi, parce que le sport que j'ai pratiqué est reconnu là-bas, alors qu'ici, c'est un peu dans l'inconnu, mais c'est correct aussi, c'est comme ça. Mais en Europe, c'est quelque chose, c'est vraiment phénoménal. Et aussi, j'ai une petite théorie personnelle à savoir pourquoi les Européens sont si forts dans les sports d'endurance. Moi, c'est ma théorie, c'est que les Européens ont vécu deux grandes guerres de proche, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que ça s'est retrouvé dans leur gène, tout simplement. Ils sont capables d'aller vraiment au-delà de ce que le corps humain et la tête nous dit de faire comme limite, mais sont capables de faire abnégation, de faire don de soi, sacrifice, puis de toujours continuer malgré que ce soit des distances qui soient énormes dans les sports que j'ai pratiqués.
Et de relever des défis.
De gros défis, ouais. Mmh. Ils sont très forts, ils sont très sympathiques, ils sont charmants.
Alors, le sport, ça peut aussi créer des états de conscience modifiés.
Ouais.
Des ouvertures de conscience. Est-ce que toi, tu en as déjà vécu?
J'en ai vécu... Sur les décathlons, j'ai eu des hallucinations. J'ai vu des danseuses hawaïennes dans les arbres. À un moment donné, j'étais sur le vélo pendant la portion 1800 km. J'étais dans le Var.
On va revenir sur les danseuses hawaïennes. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus, Yves?
Les danseuses hawaïennes, ben, je voyais des danseuses hawaïennes dans les arbres. Il y avait des palmiers. Puis, étant donné peut-être que mon cerveau a fait une connexion entre palmiers et sable et danseuses hawaïennes, ben, il y avait des danseuses dans les arbres. J'ai vu ça. Et moi, si quelqu'un me dit « Non, t'as pas vu ça », ben oui, j'ai vu ça. C'est mon cerveau qui les a peut-être fabriqués, mais elles étaient là. Et quand j'étais, c'était mon premier décathlon, c'était à Vidauban dans le Var, dans le sud de la France. Et j'étais dans le Var, je pédalais en pleine nuit. Je me rappelle, j'avais ma frontale, tout ce que je voyais, c'était l'asphalte devant moi. Puis au loin, il y avait les montagnes, et j'étais sûr que j'étais dans le désert du Nevada. Je n'étais pas dans le sud de la France, j'étais dans le désert du Nevada. Pendant mon record Guinness, le premier 77h22, ben j'ai pédalé dans une boutique de sport qui était située à Repentigny, et moi j'ai pédaler à quatre endroits différents. Les murs ont changé de couleur. À un moment donné, il n'y avait plus de matériel de sport dans la boutique. C'était un magasin de meubles. J'ai fait ça en ondes à la radio à deux autres stations de radio que je nommerai pas, mais j'étais sûr que la station de radio était située derrière la vitrine dans laquelle j'étais exposé. La station de radio était à Montréal. C'est mon cerveau qui a fabriqué tout ça. Alors, j'ai l'imagination assez fertile.
C'est fou. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour se mettre en forme?
Non. Non, il n'y a pas de limite.
Parce que tu sais, des gens qui arrivent souvent, arrivent à la cinquantaine, se disent « Oh ben, j'ai envie de me reprendre en main. »
S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient faire du sport, mais qui n'osent pas, dites-vous qu'il y a un monsieur le plus vieux à avoir complété un marathon, l'a fait à l'âge vénérable de 103 ans. Il a commencé à courir à l'âge de 86 ans suite au décès de sa femme et de sa fille. C'est sûr que tu commences pas à courir à 12, 13, 14, 15 km heure à cet âge-là, mais si tu commences piano, piano, lentement, mais sûrement. Et je pense qu'il faut simplement écouter son corps et ne pas se mettre trop de pression non plus. On a beaucoup de pression dans la société à tous les égards, dans tous les domaines, au travail, dans la famille, partout. Mais quand on fait du sport, on n'a pas de pression à se mettre. Si on veut faire un sport vraiment de façon... pour le plaisir, pour simplement aller chercher les belles sensations, ben on peut le faire. Marcher. Ah, je n'ai marché que 3 kilomètres. Ben non, t'as fait 3 kilomètres, c'est déjà très bien. Alors, non, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire du sport. Puis ça m'a été confirmé par un copain, un triathlète qui faisait des Ironman du côté de Québec. Il m'avait déjà dit, ça m'a marqué, il y a une quinzaine d'années, Yves, le corps, il se modifie tout le temps. À 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, si tu te mets à faire du sport, tu peux le modifier. Tu peux avoir une perte de poids, évidemment, c'est conséquent à la pratique des sports d'endurance.
Le modifier, c'est-à-dire le remettre en forme?
Oui, le remettre en forme.
Puis j'imagine qu'il faut vérifier si tout fonctionne bien.
Oui, c'est sûr qu'au préalable, c'est sûr qu'un examen chez le médecin, c'est une exigence. Mais oui, à n'importe quel âge, je pense qu'on peut faire du sport. Puis ne pas trop attendre aussi. La plupart des gens attendent trop longtemps. Moi, ça me fait rire quand j'entends les gens. « Ah, le 1er janvier, ma résolution, c'est de me mettre en forme. » Se mettre en forme, c'est pas une résolution. Quand je vois ça, c'est faux. C'est complètement faux. Se mettre en forme, c'est un mode de vie. Mmh. Et le mode de vie, à partir du moment que tu es dedans, que tu manges bien, mais que tu peux demeurer être épicurien, on en a parlé tout à l'heure, hors d'onde, c'est bon des bonnes choses de la vie, mais c'est bon de faire du sport aussi. Puis les bonnes choses de la vie, tu vas les apprécier davantage une fois que tu vas être fatigué, que tu vas avoir éprouvé ces sensations de fatigue, de douleur dans les jambes et de sentiment du devoir accompli par le sport. Mais là, tu vas apprécier davantage les choses, crème glacée, un fromage, un verre de vin. Mmh. C'est wow!
Et qu'est-ce que ça amène dans la vie au quotidien, cet apprentissage du dépassement de soi?
Satisfaction personnelle, tout simplement. Puis moi, j'ai pas réalisé ça pour épater personne. C'est tout simplement, je pense que c'est ma voix. C'est tout simplement ma voix, puis...
Ça peut nous aider dans notre travail?
Oui, je pense que oui, on est meilleur au travail, on est plus performant.
Dans nos relations avec les autres?
Les relations avec les autres, oui. Je pense qu'on est peut-être plus à l'écoute. Même je suis peut-être pas le plus grand, le meilleur gars pour régler des problèmes de l'humanité. Parce que moi-même, il faut que je me parle des fois. Puis j'ai un côté émotionnel qui est très, très, très élevé. Mais je pense qu'on est meilleur, puis on s'entoure de gens meilleurs. Puis forcément, tout est mieux. Tout est mieux. On dort mieux. On a de meilleures pensées. On a de meilleures conversations, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Puis, je pense que ça ne peut qu'apporter que du positif. Puis, encore une fois, c'est à différents niveaux.
Ceux qui commencent.
Ouais, dans le couple aussi.
Pour gérer les conflits.
Ouais, pour gérer les conflits.
Certaines tensions.
Puis,
calme.
On est plus calme aussi. Puis, ne serait-ce qu'en voiture. Parce qu'il y a des gens qui sont pas tellement calmes en voiture. Ouais. Alors, ça nous permet de demeurer un petit peu plus calme puis de faire abstraction du comportement des autres, des fois.
C'est quoi le message que tu as envie de transmettre aux gens qui nous écoutent, mais aux gens en général? Ton message, de ton expérience.
Mon message, là, c'est ne passez pas à côté de quelque chose qui est là, qui est gratuit, qui est en vous. Ne serait-ce que marcher, faire du sport. Vous avez l'embarras du choix, puis vous avez le choix de l'embarras. Parmi toute la panoplie de sports qu'on peut avoir sur la planète, il y en a plein. Il y a sûrement quelque chose qui va vous accrocher. Puis même, ça peut être une activité quelconque, un hobby. Ça peut être faire du tricotage, jouer aux dames, jouer aux échecs. Mais le sport, ça nous permet ça nous permet d'être bien. Puis moi, ça m'a toujours apporté que du bienfait. Puis j'ai la chance de pouvoir le faire. Je pense que la génétique est là aussi. Mais mon message, c'est que j'aimerais que un jour, j'aimerais que le Québec soit les gens les plus actifs sur la planète, qu'ils soient étiquetés les plus en forme.
Donc, ne pas avoir peur de faire du sport tout en s'écoutant aussi, hein, c'est bien ça?
Oui, puis ne pas avoir peur aussi du regard des autres.
C'est-à-dire?
On s'en va faire un cours de spinning, ben tout le monde a des cuissards de vélo avec un chandail coloré de vélo et tout. Ne pas se laisser intimider. Tu veux faire du spinning, tu veux faire du vélo avec un survêtement puis un vieux t-shirt, ben vas-y, on s'en fout, c'est correct. Mmh. Mmh. Tu le fais, c'est ça qui est important. On laisse faire le regard des autres et le jugement que les autres pourraient porter sur nous.
Absolument. Merci beaucoup, Yves. Notre émission touche à sa fin. Yves, je voudrais savoir comment on peut bien te contacter pour les auditeurs. Je sais que tu as un site.
Oui.
Alors, l'adresse de ton site, c'est...
ultraeve.ca.
Ultraeve.ca.
Il y a un onglet qui est situé en haut à droite où vous pouvez me rejoindre par plusieurs moyens, courriels, etc. Et je peux vous dire que je me fais toujours un devoir de répondre à chacun des courriels qui me sont envoyés. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des gens qui voudraient obtenir mes services pour une conférence, ça va me faire énormément de plaisir. Et je me fais toujours un plaisir de répondre aux gens qui s'intéressent au sport et aux bienfaits du sport.
Donc, on trouve des informations sur le type de conférences que tu peux offrir dans les organisations, dans les écoles,
oui,
à différents endroits.
Oui, sur mon site, il y a un onglet également, c'est marqué « conférence », je pense. Et tout est expliqué, le créneau de ma conférence. Et il y a de la nouveauté aussi depuis quelques temps à travers les conférences que je donne.
Sur le dépassement de soi, notamment.
Oui, évidemment aussi, puis sur ce que ça peut apporter mentalement. Hmm.
Ben, merci beaucoup Yves, c'était vraiment très très intéressant. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Ça me fait plaisir Stéphane.
Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.